Jean-Baptiste Joseph Champagnac, Chronique du crime et de l'innocence, avant-propos, extrait. Aimer à lire, disait Montesquieu, c'est faire un échange des heures d'ennui que l'on doit avoir en sa vie contre des heures délicieuses. Cette pensée de l'un des plus puissants génies du dernier siècle ne saurait rencontrer beaucoup de contradicteurs dans le nôtre. La lecture est devenue une des passions de notre époque. On en peut juger non seulement par les feuilles sans nombre de toute espèce qui alimentent périodiquement le public, mais encore par cette foule de livres nouveaux qui semble se disputer une petite place sur les façades de nos cabinets littéraires comme les tableaux de nos artistes au salon. Toutefois, parmi toutes ces productions nouvelles, objet de l'empressement général, il est des genres privilégiés qui attirent plus qu'artérieurement l'attention et que l'on recherche avec une sorte de friandise. La lecture a ses modes changeantes, comme la toilette. Du temps de Madame de Sévigné, on se laissait prendre comme à la glu par les romans de la Calprenède. On se plaisait aux sentiments exaltés, aux grands coups d'épée des héros de Mademoiselle Scudéry. Les mœurs de la licencieuse régence firent éclore en foule des livres licencieux, comme elle. Les ouvrages philosophiques leur succédèrent, et dès lors, l'instruction gagnant de proche en proche, les lectures instructives ramenèrent la nation aux choses sérieuses de la vie. Au commencement de ce siècle, les victoires de l'Empire et son inexorable censure imposèrent un pénible régime à la classe des acteurs. Grâce aux bulletins de nos armées triomphantes, il fallait à toute force ne se répéter que de gloire. Aujourd'hui, convenons-en, c'est tout autre chose. Jamais revanche ne fut si complète. Nous nous dédommageons largement de notre longue abstinence. Mais le goût du public a changé. Le genre qu'il aime, qu'il affectionne par-dessus tout, c'est l'horrible. Genre à part, car nos baculards, il y a 60 ans, voulaient un patronisé sur la scène française et qu'il regardait comme une source d'intérêt non moins féconde que la terreur et la pitié classique. Que demande-t-on à présent à la lecture comme au théâtre? De fortes secousses nerveuses, des palpitations quasi anévrismales, des émotions spasmodiques. On se plaît à passer par tous les effrayants prestiges du galvanisme. On veut des peintures sanglantes jusqu'à l'horreur, des caractères monstrueux jusqu'au dégoût. Et comme le disait dernièrement un journal, depuis quelques années, nous avons une soif croissante de connaître l'histoire des crimes et des calamités humaines. C'est dans le but de répondre à cette nécessité du moment, c'est dans l'espoir de plaire à la majorité des lecteurs que nous publions la chronique du crime et de l'innocence. Il nous a paru curieux, intéressant et même instructif de présenter, comme dans un vaste panorama, les actions les plus criminelles dont la France fut le théâtre. C'est un spectacle bien affreux, sans doute, mais aussi bien digne de réflexion que celui du crime dans toutes ses métamorphoses les plus hideuses. Tour à tour et quelquefois en même temps, assassins, empoisonneurs, incendiaires, parricides, tantôt échappant comme un protée à toutes les investigations de la justice, tantôt faisant tomber sur l'innocence le glaive de la loi levé sur lui, souvent même assez audacieux pour venir siéger parmi les juges. Le titre détaillé de notre ouvrage fait suffisamment connaître la marche que nous avons suivie. C'est l'histoire à la main que nous avons rédigée toute la portion de notre travail qui traite de temps reculé. Quelques vieilles chroniques, l'histoire générale de France, l'histoire particulière de chaque province, celle d'un grand nombre de villes, des mémoires historiques, telles sont les principales mines que nous avons exploitées. Bon, ce n'est pas que nous ayons la prétention d'avoir tout mentionné. Plus d'une fois, l'absence totale de détails nous a forcés de négliger des faits susceptibles d'être de notre domaine. Dans ces temps d'ignorance et de barbarie, on n'enregistrait pas, comme à présent, presque jour par jour, les actions des hommes. Souvent, dans les chroniques et autres monuments historiques de ces siècles de rouille, les événements sont à peine indiqués sommairement. Encore n'est-il jamais fait mention que des hommes les plus nobles du lignage. L'histoire, alors, essentiellement aristocratique, écrite par des moines, courtisans intéressés du pouvoir et de la richesse, privés d'ailleurs du secours de l'imprimerie, ne tenait note que des faits et gestes des nobles seigneurs qui étaient tout dans la nation et gardaient le silence sur ce qui concernait les gens du peuple qui n'étaient rien. C'est pourquoi, ne pouvant avoir prise que sur ces hauts personnages, nous sommes attachés à eux comme représentants de leur époque. Mais, dira-t-on peut-être, à quoi bon exhumer tant de forfaits et tant d'horreurs? Pourquoi ne pas les laisser enfouis? Ne doit-on pas craindre que cette lecture n'exerce une funeste influence sur quelques esprits faibles ou enclins au mal? À quoi bon, répondrons-nous? L'histoire du Bas-Empire, long et monotone récit d'assassinats, d'empoisonnement, de strangulation. À quoi bon l'histoire de tous les peuples d'Europe au Moyen-Âge, époque si riche en atrocité, si savante en barbarie? À quoi bon ce livre, première lecture de l'enfance, l'Ancien Testament, qui débute presque par le meurtre d'Abel, qui montre Joseph vendu par ses frères prêts à l'assassiner, qui narre les impudicités de plusieurs rois cruels et les massacres de tant de nations innocentes? Notre livre mériterait sans doute la réprobation universelle si par une inspiration satanique nous cherchions, comme on ne le fait que trop souvent sur certains théâtres, à plaisanter cruellement avec les droits les plus sacrés de la nature, à badiner avec les violations faites aux lois de la société. Mais la chronique du crime est d'un bout à l'autre une protestation contre le crime. Le vernis odieux que nous avons colorié, tout forfait, le détail des punitions qui les accompagnent presque toujours, prouvent assez que nous avons pris à tâche d'inspirer de l'horreur pour tout ce qui est criminel. N'est-ce pas implicitement faire le plus bel éloge de la vertu? En dire davantage sur ce sujet, ce serait prêcher le vieux converti. Si, malgré nos bonnes intentions, nous sommes coupables en quelques points, nous avons le public pour complice et pour instigateur. C'est lui, c'est son goût dominant qui nous a fait concevoir l'idée de cet ouvrage, et comme nous l'avons aussi pour juge, nous osons compter sur sa bienveillante indulgence.